Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et cette semaine, nous sommes de retour dans notre bon vieux studio confortable et plus silencieux. Et, parlant de un peu moins silencieux, je suis rejoint encore une fois par mon collègue et ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc!
Un peu moins silencieux.
Ouais, ben c'était moins silencieux que mon bureau. Je veux dire,
C'est pas justement l'objectif. Ouais. Je suis pas là pour la douceur de ma voix puis tout.
T'es pas là juste pour un fond silencieux, ouais, c'est ça. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que on l'a pas enregistré. La prochaine fois, il faudrait vraiment que je te joue un tour puis j'enregistre. C'est que quand on se promène en voiture ensemble, tu chantes.
Tout le temps.
Et je veux dire, je m'inscrirais pas à la voix et toi là.
Pas nécessairement avec talent, c'est ça que tu veux me dire.
Et c'est ce que tu chantes aussi un peu parfois qui sort un peu de l'ordinaire. Là. Tu me sortais des affaires clairement des années 70, quelque chose comme ça. Là. Mais ce qui fait peur, c'est que c'est des choses que je me rappelais. Mais bon, quand même. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de faire en ratoureux à un moment donné, la prochaine fois qu'on fera de la route ensemble, là, c'est t'enregistrer quand tu chantes. Puis mettre ça en bloopers à la fin de l'émission, là, ça serait...
C'est vraiment chiant.
Mais autant que des fois, tu prends des photos d'une certaine personne de Nissan à son insu, une espèce de jeu que tu joues avec une des personnes de relations publiques de Nissan où ce que tu prends une photo d'elle dans un moment où ce qu'elle s'attend vraiment pas que personne va prendre une photo et tu lui montres et tu la gardes sur ton téléphone, j'imagine, pour des raisons de peut-être pouvoir t'en servir à un moment donné pour faire du chantage, je sais pas. Prête-moi la nouvelle GTR ou sinon. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse, moi aussi. Ça me permettrait peut-être d'avoir la GTR dans ce cas-là, mais bon. Trêve de bouffonnerie. Marc, tu vas nous parler de quelques sujets cette semaine et tu veux commencer en te faisant solidement des amis, puis tu veux nous parler de Tesla.
Ben, faisant solidement des amis, on va quand même être honnête, là, c'est pas nécessairement... C'est pas de ma faute cette fois-là. Là. C'est vraiment pas de ma faute, on s'entend.
C'est-tu ta faute les autres fois? C'est-tu toi qui vas faire descendre le prix des actions de Tesla en bourse ou t'as-tu un truc ou quelque chose? C'est pas de ta faute, mais...
On dirait qu'à chaque fois que je parle de Tesla, les gens s'imaginent que je fais exprès pour dire que c'est de la chenoute.
Okay.
Vraiment pas, c'est pas le cas. Je tiens à le préciser, j'ai rien contre la compagnie Tesla, j'ai rien contre personne, mais je trouve ça quand même un petit peu aberrant de voir que la compagnie est encore dans le trouble, bienvenue dans le club, alors que Tesla cette fois-ci a décidé d'arrêter la production de la Tesla Model 3 pour quelques jours.
Ouais, j'ai vu ça passer, j'ai pas été regarder l'histoire un peu plus en profondeur là, mais c'est Elon Musk qui a décidé qu'il n'y avait pas eu assez d'humains sur la chaîne de montage, quelque chose comme ça, je sais pas trop.
C'est ça. Alors, okay. C'est une question d'automatisation, dit-il. L'idée, en fait, c'est que il dit, bon, ben là, il y a trop de robots, ça va pas bien, il faut améliorer la production, il faut améliorer la façon dont on fait ça, donc on arrête la production pendant quelques jours. Et c'était déjà prévu. Bon, mon problème, en fait, c'est que puisque c'était déjà prévu, faut comprendre pourquoi les employés ont donné des entrevues aux médias en disant, ben écoute, on est obligé de prendre des vacances parce qu'on s'y attendait pas pantoute.
Okay. Alors, c'était prévu question... par les hauts dirigeants de Tesla, mais c'était pas prévu que par les employés, ils savaient pas.
Exactement. Okay. Alors, est-ce que c'était prévu? Je le sais pas. Monsieur Musk est parti sur une chire de ce temps-là où c'est pas vraiment... Tu sais, il est pas vraiment dans son meilleur, là. Il est allé, bon, depuis le 1er avril où il a fait son malheureux tweet disant que Tesla faisait faillite, que, bon, ça a pas fait rire personne, ça a fait perdre pas mal de valeur à l'action. Depuis ce temps-là, il a multiplié un peu les déclarations étranges et c'est lui maintenant qui gère la production. Il a mis dehors la personne qui s'occupait de la production à l'interne et c'est lui qui maintenant va sur le plancher de l'usine. On dit même qu'il dort dans l'usine pour s'assurer que tout fonctionne. Et là, il a décidé de mettre un stop à la production de la Tesla Model 3. Il avait, on le rappelle, mis un stop à la production de la Model S et de la Model X justement pour améliorer la production de la Model 3. Donc, il ne se produit plus grand-chose chez Tesla de ce temps-là.
Okay.
Et en même temps, il s'en va faire des déclarations en disant, écoutez, faites-vous-en pas, on va être rentable d'ici la fin de l'année.
Moi.
et c'est ce qu'il a dit à tout le monde. Là.
Quand tu n'as pas été rentable depuis ta création, ça, Il me semble que c'est se virer de bord assez vite, là.
Ouais, moi, je trouve en tout cas que c'est un peu intense. C'est vraiment particulier comme déclaration, comme façon de procéder. Je trouve ça... Je ne sais pas trop où s'en va Tesla. Puis, et là, je tiens à le répéter, là, ça n'a rien à voir. Je pense que Tesla a joué un rôle extrêmement important dans la popularisation et la démocratisation de la voiture électrique, a forcé d'autres manufacturiers à penser différemment, a été vraiment un précurseur dans ce domaine-là. Le problème, c'est que là, on est en train de jouer une game un peu bizarre et je ne sais pas où ça va aller. J'ose espérer, tu sais, je ne souhaite pas de malheur à personne, mais j'ose espérer que la compagnie va se ramener sur le droit chemin.
Ouais, parce qu'il faut se dire, même si Tesla a des hauts et des bas, c'est quand même eux autres qui ont aidé le restant des manufacturiers à se déniaiser, à penser un peu plus voiture électrique, parce que si Tesla n'était pas là, ça serait probablement encore le statu quo un peu plus, là.
Oui,
ça l'a réveillé certains autres constructeurs qui faisaient pas grand-chose depuis quelques années, là. Donc ça a eu du bon, mais là, il faut que Tesla arrête de se dire, ben, on est capable de faire mieux que les autres, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire mieux que les autres, ou au moins faire pareil comme les autres, parce que présentement, ça va pas super bien. Là.
Non, c'est ça. Puis tu sais, là, il va vraiment falloir qu'on arrête de... Puis là, on va me dire, oui, mais c'est les médias qui en parlent, oui, mais le problème, c'est quand tu te mets toi-même en avant de tout le monde, comme Elon Musk l'a fait,
ouais.
Ben, à toutes les fois que tu fais une erreur, tu t'exposes. Tu sais, ça me fait penser là, aux vedettes, aux célébrités, là. Qui essayent d'être sur tous les tapis rouges du monde, mais qui se plaignent que les paparazzis vont faire des photos. Ben, je m'excuse, mon homme, là, mais quand tu les invites toi-même, c'est comment je pourrais dire?
T'sais, tu cherches le trouble, là, tout simplement. Là.
Mettons que tu te places en avant.
Oui, ouais, c'est ça. C'est, si tu cherches toujours l'attention, ben tu vas avoir l'attention, mais attends-toi pas à toujours avoir l'attention juste pour les bonnes raisons. Tu pourras avoir l'attention exactement. Pour les mauvaises raisons aussi. Là.
Tu ne peux pas contrôler tout ce qui va se dire sur ton dos à partir du moment où tu ouvres toi-même la porte.
Non, c'est ça.
Et là, Tesla, Elon Musk a joué cette game-là. Il a joué la carte du gars qui vraiment faisait, tu sais, là, nous sommes en avant, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts. Et là, il s'offusque que les médias parlent contre lui quand il y a des problèmes. Mais en fait, c'est pas contre Tesla, c'est simplement pour dénoncer une situation qui n'a pas de bon sens parce qu'on nous fait des promesses qui n'ont pas d'allure.
Ouais.
Et là, de plus en plus, cette année, depuis le début de l'année, Tesla est en difficulté. Pas nécessairement en difficulté financière, là. Tu sais, je sais pas, je suis pas dans les poches d'Elon Musk, là. Mais il y a quand même une évidence. Il y a une difficulté au niveau de la perception publique. Il y a une difficulté au niveau de la production. Il va falloir que Tesla réagisse rapidement, je te dirais.
OK. On va voir ce que ça va donner.
Parce que là, le problème, là, c'est que non seulement les investisseurs commencent à perdre confiance, mais même les acheteurs. Oui, il y a les craqués de Tesla qui vont attendre jusqu'en 2048 pour avoir leur char, puis ça les dérange pas, tu sais. Mais le monde ordinaire va avoir de plus en plus d'options intéressantes.
Ouais.
Et à un moment donné, Tesla va faire figure de l'owner. Là. Ils vont être seuls dans leur coin, puis les gens ne voudront plus attendre pour avoir ces voitures-là.
Ouais.
Ça ne vaudra plus la peine.
Ouais, c'est ça. C'est parce que t'achetais, quand la Model 3 a été annoncée, t'achetais comme une révolution. T'achetais une petite voiture abordable, en pleinement électrique, avec une bonne autonomie. Mais là, pendant ce temps-là, ben gars, la Hyundai Kona s'en vient. Puis là, c'est pas nécessairement la même chose, mais les gens qui veulent une voiture électrique vont se rabattre sur d'autres choses à un moment donné parce qu'ils veulent une voiture électrique. Les gens qui veulent une berline, ben vont peut-être juste aller chercher une voiture à essence, là. Mais les gens qui veulent une voiture électrique vont se rabattre bientôt sur le Kona, l'année prochaine, la Leaf avec la batterie qui va promettre une 60 kWh, tu sais. Tu sais, quelque chose de qui va avoir 350 km d'autonomie. Les gens vont s'en aller vers ça, puis Tesla... C'est pourquoi j'ai donné 1 000 $ d'acompte pour une voiture que je verrai peut-être juste dans 2-3 ans. À un moment donné, les gens vont se tanner. Mais tu as des gens qui veulent avoir une Tesla parce que c'est le Apple du monde de l'automobile, puis c'est un statement, puis c'est pour, tu sais, je veux ma Tesla parce que... T'sais.
Le problème, c'est que la façon dont il se comporte actuellement, ouais. Elon Musk est en train de brûler même ça.
C'est ça. Ouais.
Il est en train de prouver que les détracteurs avaient un peu raison de dire que le gars, il est un petit peu fantasque, puis il a un égo plus gros que son usine au Nevada.
Non, oui, ça c'est clair que c'est une personnalité. Tous les gars comme ça, qui ont un charisme comme ça, sont un peu chauvins, puis c'est moi le meilleur, puis c'est moi qui sais comment ça devrait fonctionner. Là.
Bon, je sais, mais en même temps, le problème, c'est que en faisant ça, tu sais, Steve Jobs était supposément de même, je sais pas, j'ai jamais...
Steve Jobs, selon tous les gens qui ont travaillé avec étaient horribles à travailler avec. Là. Ils étaient vraiment difficiles. Là.
Semble-t-il, mais ses produits étaient là.
Oui, oui, oui. Ouais.
Le problème d'Elon Musk, c'est qu'actuellement, ses produits n'y sont pas.
Mais tu sais, c'est beaucoup plus facile de faire un... Ben, beaucoup plus facile. C'est compliqué de faire un téléphone ou une tablette, quelque chose comme ça, mais le coût de chacun de ces produits-là est beaucoup moindre qu'une voiture, là. Puis on,
oui, mais
on
ça change rien.
Non, non, mais on s'entend que le coût de production puis le coût de développement de chaque produit est vraiment différent. Mais Steve Jobs était capable d'avoir des résultats. Mais Steve Jobs, quand même, s'entourait de gens qui étaient capables de livrer ce que lui voulait faire. Lui, il avait la vision et il y avait des ingénieurs et des gens alentour de lui qui étaient capables de livrer. On dirait qu'Elon Musk est comme... se met sur un piédestal et il est comme tout seul. C'est un peu différent. Là. Donc, c'est tout lui, à un moment donné, qui va manger les problèmes qui vont arriver à Tesla, parce que c'est comme c'est lui la tête d'affiche de cette compagnie-là. Jobs était la tête d'affiche, mais Jobs envoyait les designers des téléphones des fois sur le stage pour aller montrer le nouveau téléphone. C'était Jobs qui présentait cette personne-là, mais il y avait d'autres gens qui étaient en arrière de ça. Musk prend toute l'attention du monde. Fait que c'est ouais, sûr qu'à un moment donné, ça va y retomber sur lui aussi. Tu te mets de l'avant, tu vas manger, c'est toi qui vas recevoir les premières tomates. C'était en avant.
Exactement.
Okay.
Exactement. Mais c'est bon. Juste une question de... Moi, je trouve que c'est dommage parce que même si je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, je pense que ils méritent une certaine reconnaissance. Mais là, il est en train de se tirer dans le pied lui-même. Et bon, les investisseurs commencent à trouver aussi qu'ils poussent ça là un peu. Là.
Ben, on verra d'ici la fin de l'année. Il a dit qu'il serait profitable d'ici la fin de l'année. Fait qu'on va voir d'ici la fin de l'année. Ça va. Ah, ben, on va arriver. On va voir si ça arrive ou pas.
Et j'attends toujours la visite de la fille des dents. Bon.
Ouais, c'est ça. Ouais. T'en parleras à mon fils. Donc, c'est ça. Peut-être c'est The Rock, la fille des dents. Fais attention. Des fois, il pourrait peut-être se venger. Avoir un contrat sur ta tête émis par Elon Musk.
Oui, c'est ça.
Pour être dangereux. Il pourrait ramasser plus que la dent que tu laisses en dessous de ton oreiller, peut-être ramasser ceux que tu as dans la bouche aussi.
Je vais y envoyer mon dentier, ça va.
Ça va être plus facile. Bon, tu veux aussi nous parler de la toute nouvelle politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, qui a été annoncée hier.
Ouais. Oui, parce qu'il faut préciser aux gens qu'on enregistre mercredi.
Ouais.
Pourquoi je l'explique? Parce que en fin de semaine, il y a le salon de la voiture électrique.
Mm-hmm.
Et on nous dit que... Parce que dans le plan de mobilité durable, si tu l'as lu, la politique, il n'y a pas grand-chose qui concerne les voitures électriques à proprement parler.
Okay.
Ben, en fait, ils précisent qu'ils n'atteindront pas leur objectif de 100 000 véhicules en 2020. Regarde si ça me fait une grande surprise. Ceci étant dit, c'est pas ça. C'est surtout que la politique qui a investi 2,9 milliards d'argent neuf, là, va toucher surtout pour le moment le transport en commun. L'idée rapide de cette politique-là, c'est qu'on veut offrir aux gens quatre possibilités de se déplacer à partir de leur domicile, si tu veux. Là.
OK.
Donc, on va favoriser le covoiturage, on va favoriser le transport en commun énormément, surtout en zone urbaine, plein de trucs comme ça.
Mm-hmm.
Ceci étant dit, on sait, puis on en a parlé la semaine dernière avec les gens de Nissan, il devrait y avoir une annonce au salon de l'auto électrique cette semaine. Vraisemblablement, un investissement plus majeur dans le réseau des bornes de recharge. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont accéder à la demande des 2000 bornes de l'AVEC.
Oui, mais ça a l'air qu'ils ont refusé de rencontrer l'AVEC.
Oui, mais en même temps, ils ont utilisé cette philosophie-là pour en parler en chambre. Là.
Ouais, OK. On verra
ce que ça donne. À mon avis, ils vont augmenter le réseau, mais semble-t-il qu'il y a une annonce très importante qui va être faite au salon. Alors, je voulais seulement souligner qu'effectivement, on a très peu parlé de voitures électriques à proprement parler à l'intérieur de la politique, pour juste voir que la politique elle-même est totalement incomplète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... tu sais, c'est un programme électoral, hein?
Non,
il y a des élections.
Oui, c'est ça.
Fait qu'ils vont se garder des annonces au fur et à mesure. Alors, ne désespérez pas, électromobilistes, je suis convaincu qu'il y aura des annonces intéressantes au cours des prochains jours, des prochaines semaines, voire des prochains mois, mais pour le moment, c'est essentiellement une politique qui mise sur le transport en commun, le covoiturage et des trucs comme ça. Mais on devrait donc être en mesure d'avoir un peu plus de détails au cours des prochains jours. J'en suis persuadé.
C'est bon. Puis juste vite comme ça, on va prendre un petit segue pendant que tu parles d'électrification. Puis après ça, on va aller à la pause. Les gens qui s'intéressent, on va faire une espèce de lancement de borne de recharge à Saint-Zotique, à la plage, le 9 juin prochain. Donc, si ça vous tente de venir faire un tour, Si vous venez avec votre voiture électrique, là, supposément qu'on travaille avec la plage pour vous donner une passe de saison gratuite. Donc, si vous venez avec une voiture électrique à cette journée-là, ils vont vous donner une passe que vous, et puis vous allez pouvoir revenir à la plage gratuitement pour le restant de la saison. Je travaille avec eux autres. Je confirmerai quand ça sera fait, mais c'est ce qu'on avait mis sur la table au départ. Et puis, il va y avoir l'AVEC qui va être là, puis on va inaugurer deux bornes de recharge 240 volts, là, des bornes de recharge régulière qu'on retrouve dans les maisons. Donc, les gens qui vont venir à la plage avec leur voiture électrique vont pouvoir recharger. Fait qu'on fait une espèce de petit party le 9 juin. Si ça vous tente de venir voir ça, nous rencontrer, ben vous allez être les bienvenus. Fait que vu qu'on parlait d'électrification, là, je voulais juste...
Fait que moi, j'aurais pas de passe pour la saison.
Ben, à moins que tu prennes une voiture électrique de presse puis tu viennes faire un tour.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Je vais t'emprunter la tienne.
Ah, mais tu pourrais.
Tu iras à pied, t'es connu.
Tu pourrais. Moi, j'ai la Leaf 2018 cette fin de semaine-là parce que je vais l'apporter à la plage. Donc, si vous voulez voir la Leaf 2018, vous pouvez venir en même temps. Je vais l'avoir à la plage. Fait que tu pourrais venir chez nous prendre la mienne en attendant pour te rendre à la plage.
C'est ça, exactement.
Ça pourrait toujours être possible. C'est bon. Donc, Marc, on va faire une petite pause puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Tu vas nous parler de la toute nouvelle Mazda 6 2018. Puis moi, je vais vous parler du Volkswagen Passat. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'une voiture que tu as, à ce que je sache, en ce moment, dans ton entrée. C'est la toute nouvelle Mazda 6 2018.
En fait, pour être honnête, je ne l'ai plus.
Ah, bon.
Je ne l'ai eu qu'une seule journée.
Ah.
Parce que la Mazda 6, elle n'est pas arrivée encore. En fait, elle n'est pas arrivée, c'est pas vrai. Elle n'est pas arrivée sur la flotte de presse encore.
OK.
Elle est, en fait, d'ailleurs, mes collègues journalistes ne seront peut-être pas contents, mais elle est effectivement arrivée chez les concessionnaires au cours de la dernière fin de semaine.
Ouais.
Et elle est aussi, ils sont actuellement partis en Colombie-Britannique pour l'essayer.
OK.
Okay. Sauf que moi, j'ai eu l'opportunité de mettre la main sur une version turbo lundi dernier et j'ai fait quelques tests. En fait, j'ai roulé une partie de la journée avec la voiture.
OK. Et puis, c'était comment?
Ben, en fait, c'est une voiture qui est très intéressante parce qu'il y a plusieurs éléments dans cette Mazda. D'abord, il faut que je dise que moi, j'aime la Mazda 6 pour son côté dynamique.
Oui, ouais, c'est le côté vroom-vroom de Mazda, là, c'est normalement présent dans à peu près tous leurs modèles.
Oui, mais la Mazda 6 en particulier, elle est dans un créneau... tu le sais, qui n'est pas vraiment, comment je pourrais dire, qui est, la plupart des voitures, des berlines intermédiaires, ne sont pas nécessairement reconnues pour leur dynamisme de conduite. Là.
Non, certaines, mais alors, pas toutes. Tandis que
la Mazda 6, c'est vraiment ça.
Oui, c'est bon.
Puis, sauf que, en plus, on a ajouté cette année un nouveau moteur, le moteur turbo 2.5, qui se retrouve aussi dans le CX-9.
Oui. Ouais.
Donc, un moteur qui fait 250 chevaux quand tu utilises de l'essence super. Mais qui fait 227 chevaux si tu utilises de l'essence ordinaire.
Donc, tu n'es pas obligé de prendre l'essence super. C'est juste ta performance qui va y goûter un petit peu. Là.
Exactement.
OK. Parce que certains moteurs turbo, tu es obligé de mettre du super. C'est pas une suggestion.
Pas dans ce cas.
OK, c'est bon.
Pas dans ce cas. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça permet justement d'économiser un peu sur le carburant au prix où il est rendu.
Oui.
Ceci étant dit, c'est un moteur qui est très souple, qui est très agréable, qui fonctionne bien. Jumelé à une boîte automatique 6 vitesses, c'est intéressant. C'est un moteur qui est nerveux parce que c'est pas un biturbo, c'est un turbo ordinaire, mais il y a ce qu'il appelle le dynamic pressure turbo. C'est-à-dire que à bas régime, il y a comme on ajoute un peu plus de oomph à l'intérieur du turbo.
Okay.
Et ça nous permet d'avoir accès rapidement, c'est-à-dire en bas de 2000 tours, à la puissance. 250 chevaux pour un moteur turbo, là, il y a des amateurs qui disent « Ah, c'est pas beaucoup. » Ce qui n'est pas faux, mais c'est 310 livres pieds de couple.
Ouais, à cause du turbo.
Ça, c'est pas pire.
Ouais, c'est ça.
ça commence à déménager solide.
Puis il ne faut pas se leurrer, c'est ça qu'on ressent. Là. Ce qu'on ressent dans une voiture, c'est le couple, c'est pas la puissance moteur nécessairement. Là.
Non, effectivement. Là, en fait, moi, j'aime beaucoup le fait que, bon, justement, c'est la puissance moteur, tu vois, les chevaux, là, les chevaux vapeur, tu vas les avoir à haute vitesse.
C'est ça. Ce qu'on ne peut pas vraiment utiliser au Québec, de toute façon, à part si tu vas sur une piste.
Ouais.
Pour le restant, c'est le couple. C'est le couple qui va te donner la sensation de « Ah, je décolle vite du stop, je décolle vite de la lumière. Ah, il est vite sur le 0-100. » Ça, c'est le couple. C'est pas la puissance moteur. On utilise rarement la puissance moteur d'un véhicule parce qu'on ne se rend pas si vite que ça.
La puissance te dit à quelle vitesse tu rentres dans le mur et le couple te dit à quelle distance tu amènes le mur.
C'est ça, c'est ça.
C'est aussi simple que ça.
Exactement.
Alors donc, ce couple-là, il est très, très présent avec la Mazda 6, mais il est quand même agréable et ça te permet d'avoir justement cet élément-là vraiment plus dynamique de conduire. On a aussi amélioré le châssis, on a amélioré un peu les suspensions, donc ça fait une voiture qui est définitivement plus, je te dirais un petit peu plus homogène et plus agréable à conduire au niveau de la conduite.
Okay.
Ceci étant dit, c'est une voiture dont on a peu modifié l'extérieur. Oui, on a changé la grille en avant. On aime ou on n'aime pas. Là, certains trouvent que ça a l'air un peu plus lourd. Moi, j'aime bien le look parce que c'est moins grillagé, c'est plus des carrés. Je trouve ça très joli.
Ouais, ça donne un look un peu plus luxueux, mais c'est peut-être un peu massif. Mais encore là, entre une photo puis la voir en vrai, des fois, c'est très, très différent. Là.
Effectivement.
OK.
C'est particulièrement intéressant parce que de ce point de vue-là, c'est une voiture qui veut justement se donner une allure plus luxueuse.
Ouais. On veut sortir du lot un peu chez Mazda. Là. On n'a pas tellement le choix de sortir du lot parce que c'est pas les plus gros vendeurs. Mazda fait bien, là, mais Mazda se démarque pas côté vente nécessairement.
Surtout pas avec la Mazda 6.
C'est
la
ça.
Mazda 6 est définitivement pas celle qui est la plus populaire.
Donc, faut attirer autrement. Là.
Exactement. Et quand on continue, on se retrouve avec un intérieur qui, lui, a été complètement refait, complètement remanié. Et honnêtement, là, ça, c'est bien fait. On utilise même dans la version... Moi, j'avais la version signature, qui est la version la plus élevée, à 45 000 $ quand même. Là. On a changé les sièges. Les sièges sont plus larges, offrent un meilleur support, le cuir une meilleure qualité. On a même utilisé des bois, un bois à l'intérieur qui s'appelle un bois de Sen, S-E-N, qui est le bois qui traditionnellement était utilisé pour les instruments de musique japonais.
OK.
Alors, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Donc, on mise vraiment sur cette partie luxueuse-là pour aller s'attirer une nouvelle clientèle. Quand on regarde la voiture, tu sais, honnêtement, là, si tu regardes passer vite, là, tu sais, faut que tu connaisses comme il faut la version actuelle pour être en mesure de voir la différence. Mais c'est vraiment bien réussi. Là. Je trouve en tout cas que moi, c'est fort bien réussi. Et j'aime la Mazda 6 dès le départ. J'ai aimé son dynamisme de conduite. J'ai aimé sa position. C'est dans l'ensemble une voiture que j'ai beaucoup aimée. Est-ce que je l'ai aimée beaucoup plus qu'avant? Écoute, c'est dur à dire. Je l'ai essayé lundi au moment où il pleuvait, hiver glacé, il faisait frais, on gelait. Donc, c'est sûr que les conditions n'étaient pas idéales pour faire un essai. Moi, j'ai hâte de voir de quoi va avoir l'air la consommation d'essence parce que, bien sûr, on arrive quand même avec un moteur qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant. On a aussi une version, la version traditionnelle, là, le moteur 2.5 qui existe déjà, mais on y a ajouté la désactivation de cylindre.
OK, on va aller chercher une meilleure consommation à cause de ça un petit peu. Là.
Exactement.
Sur l'autoroute, surtout.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, c'est un véhicule, honnêtement, qui a subi un beau changement. C'est un peu plus qu'un changement de milieu de vie, je te dirais. On l'a pas mal réaménagé. J'ai bien hâte de voir, comme je te dis, j'ai hâte de la tester plus longtemps, mais pour le moment, je trouve ça quand même fort intéressant.
OK, c'est bien. Très bien.
De ton côté, mon cher.
Ben moi, j'ai essayé une autre berline intermédiaire. J'ai essayé la Volkswagen Passat. Faut que je le dise, puis je ne taperai pas sur le clou longtemps quand même, parce que c'est probablement un mauvais problème que j'ai eu avec la voiture que j'ai eu de presse. Les deux premiers jours, il neigeait aussi, fait que j'ai eu l'impression que la Passat se pensait à Noël. Parce qu'elle m'a allumé, pendant deux jours de temps, elle m'a allumé à peu près toutes les lumières possibles et imaginables qui pouvaient s'allumer dans le tableau de bord. Tous les systèmes de sécurité se désactivaient, les sacs gonflables se désactivaient, l'ABS se désactivait, le contrôle de traction se désactivait. Et puis, c'est vraiment drôle parce que c'est arrivé la journée que je l'ai ramassé, puis entre l'endroit où je ramasse la voiture, puis mon travail où je retourne après, puis après ça, je m'en retourne à la maison, il n'y a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Si c'est 5-10 kilomètres, c'est beau. Puis dans ce temps-là, les lumières ont eu le temps d'allumer. Après ça, je l'ai éteint. Quand je l'ai reparti, tout était éteint. Je suis reparti vers la maison aux alentours de 4h, 4h30. Et encore, tout s'est allumé en route. Ça s'est éteint quand je suis arrivé à la maison. J'ai reparti la voiture, c'était éteint. Le lendemain matin, je l'ai rallumé, j'ai reparti. puis encore une fois, en m'en allant au bureau, les lumières de Noël. Après ça, j'ai pas eu le problème. Je suis retourné à la maison le soir sans problème, puis le restant de la semaine, j'ai pas eu de problème avec. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, c'était-tu de l'humidité? Je me rappelle dans le temps, j'avais eu une Eagle Talon, puis il y avait un sensor où son recouvrement avait été endommagé, puis c'est de l'humidité qui rentrait là-dedans, puis les lumières allumaient partout. Ça faisait allumer toutes sortes de lumières de sensor. Fait que c'est peut-être juste quelque chose comme ça qui est arrivé, peut-être pas un problème majeur, là.
Non, mais c'est souvent ce genre d'affaires-là. Ça arrive chez Volkswagen, ça arrive beaucoup chez les Allemandes, on va le dire. Là.
Ouais.
C'est quelque chose qui est assez fréquent du côté des véhicules allemands.
Mais c'est ma première fois depuis que j'essaie des voitures, puis j'en ai conduit des Volkswagen. C'est la première fois que ça m'arrive personnellement. Donc, tu sais, je prendrais pas ça pour c'est un genre qui a des problèmes. Ça m'est arrivé deux jours de temps, c'est plus arrivé pour le restant du temps. Je sais que la voiture a été envoyée au garage pour la faire vérifier. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je redemanderai peut-être voir s'ils ont trouvé quelque chose. Là. Mais en tout cas, pour le restant de la semaine, j'ai pas eu de problème. Pour le reste, la Passat, c'est une voiture qui est correcte, qui est confortable. Ça serait pas, personnellement, c'est pas mon premier choix. Là. Je veux dire, il y a des voitures qui sont mieux équipées pour la même gamme de prix ailleurs, surtout comme si on va chez les Coréens, Kia, puis Hyundai, une Sonata, une Optima, presque de base, si pas de base, vous avez des sièges chauffants, un volant chauffant. Chez Volkswagen, j'avais la version Highline avec le moteur 2 litres turbo, puis la transmission 6 vitesses automatique, puis pas de volant chauffant encore. Siège chauffant, oui, mais pas de volant chauffant. Mais ça, c'est une mode chez les Allemands. Pourtant, j'ai resté surpris parce que le Tiguan que j'avais la semaine d'avant, avait siège et volant chauffant, puis la Passat avait juste les sièges chauffants, puis pourtant, c'est les deux voitures, chez Volkswagen, là, c'est les plus américanisées de la flotte. Là. La Passat puis le Tiguan, là, c'est vraiment les voitures qui sont ciblées pour un public américain. Donc, normalement, j'aurais pensé avoir le volant chauffant aussi dans la Passat, surtout la Highline, puis je l'avais pas. Mais bon, c'est pas grave. Pour le reste, c'est une voiture qui est confortable, c'est une voiture qui est silencieuse. L'intérieur, c'est quand même joli, là, mais c'est pas poussé à l'extrême. Là. C'est des plastiques durs à certains endroits, mais au moins, on ose mettre un peu de couleur dans l'intérieur de la Volkswagen. C'est drôle parce que j'ai eu...
Ce qui est une nette amélioration parce qu'on était dans le noir assez solide.
Noir sur noir avec détail noir, ouais. Là, c'est drôle parce que il y a quelques années, j'ai eu une Jetta qui était la même combinaison de couleurs. Il y avait une Jetta bleu foncé avec l'intérieur beige sur la flotte, là, je pense, 2 ans. Mais là, j'avais une Passat bleu foncé avec l'intérieur beige. J'avais l'impression de conduire la même voiture parce que l'intérieur est fini à peu près similaire. T'sais. La seule manière vraiment que tu sais que tu es dans une Passat, c'est qu'ils ont marqué le mot Passat sur le tableau de bord. Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est pour te rappeler ce que tu conduis. Ils mettent le nom de l'auto juste sur le tableau de bord au-dessus de la radio. Mais tu sais, c'est un système de divertissement qui est complet, qui fonctionne bien, qui se reconnecte vraiment rapidement. Puis c'est une voiture qui a un comportement correct. Là. Je veux dire, c'est confortable. C'est pas une conduite hyper sportive, mais c'est correct. C'est à peu près ça. C'est à peu près ce qu'on peut dire de la Passat en général. C'est une voiture qui est correcte. Faut vraiment comme être un fan peut-être de Volkswagen pour aller vers une Passat quand il y a... ou vouloir une conduite un peu plus allemande, mais je peux pas dire que c'est une conduite allemande, la Passat, c'est vraiment plus américanisé, fait que c'est y a pas vraiment de grosses sensations de conduite, des choses comme ça. C'est une voiture qui est là pour le confort, t'sais. C'est une voiture qui est jolie, mais t'sais, c'est pas une GTI, c'est pas quelque chose qui va être amusant vraiment à conduire, ou qui, quand on la regarde, on se dit « Ah, wow, t'sais, quelle belle voiture! » C'est une voiture qui est correcte, là, dans à peu près tout. Fait que si vous êtes un fan de Volkswagen, oui, c'est une bonne voiture, mais je pense qu'il se fait mieux ailleurs. Je sais pas si tu es d'accord, Marc, là, mais...
Oui, moi j'ai pas été un fan. Depuis qu'ils construisent la Passat à Chattanooga, c'est devenu une grosse Toyota Camry.
Ouais,
je trouve qu'ils ont perdu le côté un peu unique de la voiture, un peu intéressant au niveau du... franchement, je suis pas...
Mais sais-tu, j'irais même jusqu'à dire, je pense que maintenant, elle est plus Camry que la Camry. Parce
Oui, parce que la nouvelle Camry est vraiment définitivement meilleure,
C'est
là.
ça, Toyota a décamérisé la Camry, tandis que Volkswagen a camérisé la Passat. Fait que j'ai de la misère. Puis c'est drôle que tu parles bâti à Chattanooga parce que les pneus de la. Les, pas les pneus, mais les jantes de la Volkswagen Passat Highline, c'est des 18 pouces Chattanooga Alloy Wheels.
Ben oui, c'est.
Fait que
Écoute, c'est
c'est ça.
construit là-bas, là.
Non, ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait que c'est ça. C'est bien, c'est confortable, mais c'est pas une voiture qui se sort du lot. Puis je pense qu'à. Tu sais, à 26 195 puis le modèle de base, puis ça commence, c'est sans option. Puis si on va la Highline, c'est 35 795 $. Je pense qu'il y a mieux ailleurs.
Oui.
J'irais peut-être plus vers une Sonata, une Optima, ou tu sais.
C'est pas pareil, là, on
Non,
s'entend,
mais
là.
tu sais, c'est des conduites différentes aussi. Mais tu sais, côté valeur, côté ce qu'on paye pour ce qu'on reçoit, je pense que. Ailleurs, il se fait mieux, là. Ça aurait plus d'équipement, peut-être plus d'agrément de conduite, ton conduite même vers quelque chose d'autre que ça. Mais si vous êtes un fan fini de Volkswagen, je veux dire, ça reste une voiture qui est intéressante, là.
Oh, oui,
Mais bon,
effectivement.
c'est ça. Bon, voilà. Donc, on va terminer là-dessus, Marc. On va faire une dernière petite pause, puis on va revenir avec les nouvelles. De retour de la dernière pause. Et Marc, c'est l'heure des nouvelles. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, mon cher?
En fait, des nouvelles particulières cette semaine, puisque tu avais entendu parler, je suppose, des problèmes de moteur de la Kia Forte.
Ouais, mais ça date pas de v'là quelques temps, ça?
Quelques semaines, quelques mois
Ouais,
même,
ouais.
la Kia Forte, entre 2010 et 2014, les propriétaires se plaignaient que le moteur claquait très fort et ça créait certains problèmes, et Kia refusait de remplacer les moteurs, surtout si la garantie était échue à ce moment-là. Oublie ça, il fallait que tu payes 5 000 à 6 000 $ pour changer ton moteur.
Ouais, ce que les gens feront pas.
Ben, il y en a qui l'ont fait, en fait.
Ouais, mais c'est parce que quand le moteur vaut plus cher que ce que ta voiture vaut à un moment donné, c'est comme, tu
C'est
sais.
ça.
Ouais.
Exactement. Alors, il y a eu un recours collectif qui a été intenté au Canada pour essayer justement d'améliorer cette situation-là. Or, il y a eu une drôle de situation la semaine passée, c'est-à-dire que Kia a accepté de remplacer les moteurs même si la garantie est échue.
OK, bon.
Ça, ils le font, il n'y a pas de problème. Par contre, ils n'ont pas envoyé de lettre à leur propriétaire.
OK.
Ils l'ont écrit sur leur page Facebook, ça s'est fait de façon un peu discrète, et ils n'ont pas envoyé de lettre à leur propriétaire. Donc, ils le font, mais il faut que vous le sachiez.
Donc maintenant vous le savez.
Maintenant, vous le savez. Et c'est la facture à Radio-Canada, là. Je ne prendrai pas le crédit de ça, là. C'est l'émission La facture à Radio-Canada qui en a parlé. Alors, évidemment, là où la situation se complique, en fait, c'est ceux qui ont payé, qui n'ont pas été remboursés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas annulé le recours collectif. On attend donc de voir les résultats. Pour le moment, donc, si vous avez une Kia Forte, que le moteur claque, même si vous êtes hors garantie, allez voir votre concessionnaire. Normalement, on devrait vous changer votre moteur sans poser trop de questions. Et pour le reste, priez pour que le recours collectif se déplace et vous donne raison, parce que là, pour le moment, il n'y a rien, malheureusement, de confirmé de ce côté-là.
Fait que là, il y a pas de rappel officiel, donc il y a pas de, t'sais, de tel numéro de série à tel numéro de série, venez, parce que votre moteur est problématique, c'est si ton moteur claque, tu y vas pis tu le fais remplacer.
Ouais, c'est les Forte entre 2010 et 2014.
OK. Ça va être de voir, t'sais,
Donc,
si présentement ton moteur claque pas, mais dans 6 mois ton moteur claque, ça va-tu encore s'appliquer? Ça
oui,
peut
oui,
donner
oui,
ça.
oui,
T'sais,
oui, moi, je
OK.
pense que oui.
Il va falloir que vérifier ça comme il faut, là, mais en tout cas. Mettez-vous une petite note sur le frigidaire, là. Si vous avez
C'est
une
ça.
Forte entre 2010 puis 2014, si mon moteur se met à claquer, va au garage.
C'est ça.
C'est bon.
Mais je pense que les gens vont s'en rendre compte assez rapidement.
Oui, j'espère.
Dans la série des autres nouvelles, il y a le salon de Beijing la semaine prochaine. Un salon qui est généralement assez couru, et c'est vraiment un événement où il y a de plus en plus de voitures, et notamment de plus en plus de voitures électriques. Et c'est Buick. Buick, il faut le savoir, en Chine, est un joueur très important dans le marché,
Ben
historique.
c'est la seule raison pour laquelle Buick existe encore, c'est que en Chine c'est extrêmement fort, parce que sinon
Mais tu sais pourquoi?
pourquoi parce que c'est construit là-bas.
Non, parce que dans les années 60, 50-60, l'empereur chinois avait choisi la Buick comme véhicule officiel.
OK, ouais, puis ça a resté comme dans l'historique là.
Exactement. Et depuis ce temps-là, donc, on est là et on fait ça. Alors voilà. Donc, la Buick, qui va être dévoilée. On va dévoiler trois véhicules, en fait, la semaine prochaine. Une version électrique, une version hybride rechargeable de la Buick V-Lit et un nouveau modèle qui s'appelle la Buick Enspire. C'est une espèce de VUS électrique aussi. Donc, on est vraiment dans l'électrification à côté chez Buick en Chine. Évidemment, on ne sait pas exactement ce que ça va donner parce que ce qu'on a, c'est des prototypes, donc on verra ce que ça donne, mais c'est magnifique. Honnêtement, je t'avoue que moi, la Buick V-Lit 6, qui est une espèce de familiale, je la trouve superbe. Malheureusement, on ne l'a pas chez nous, mais on va souhaiter... En fait, on espère que ça va permettre à GM là, de remplir ses commandes, d'avoir ses 20 véhicules électriques d'ici 2020. Donc, on verra, mais pour le moment... On a confirmé que la Buick V-Lit 6 ne serait pas vendue en Amérique du Nord, qui est un peu plate.
Non, mais là, tous les constructeurs s'en vont vers ça. Même Nissan nous le disait quand on était pour la Leaf, là, que d'ici 2020-2022, ils veulent avoir 15, 18, 20 véhicules électriques sur la route. Fait que toutes les compagnies s'en vont vers ça. Mais 2020-2022, c'est demain matin. Là.
Oui, mais attention, c'est électrique ou partiellement électrique?
Électrifié. Fait que ça peut être du hybride, hybride léger, peu importe. Là.
C'est comme Volvo, là. T'sais.
Bon, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est mieux que rien, c'est mieux que rien.
C'est mieux qu'une tape sur le nez, effectivement.
Ouais, ben, tout est mieux qu'une tape sur le nez, à part un diesel Volkswagen, mais bon, pour le reste, c'est correct.
Et encore.
Et mais... encore, ouais.
juste à titre, si on continue, le Buick Enspire, qui est la version 100% électrique, 550 chevaux, mm-hmm. 0-100 en 4 secondes, une autonomie de 600 km et 80% de recharge en 40 minutes. Sur une BRCC.
Ouais, j'ai hâte de voir le prix du véhicule, par exemple. Parce que normalement, quand on parle de ces performances-là et ces autonomies-là, on parle de véhicules que le commun des mortels ne peut pas s'acheter.
C'est un prototype.
Oui, c'est ça. Donc,
de mon humble avis sur la question, le commun des mortels ne le verra même jamais.
Probablement. C'est bon.
Mais ça, c'est une autre affaire, bien entendu.
Ouais.
Lexus, en fait, toujours dans le même salon, Lexus va profiter du salon pour dévoiler ce qu'ils nous ont dévoilé déjà hier, une Lexus ES complètement remaniée avec la portion avant qui ressemble de plus en plus à la LC, si tu veux, là, que moi j'adore d'ailleurs. Là.
Mm-hmm.
Donc, ce serait vraiment un véhicule qui, semble-t-il, pourrait vraiment... En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que l'actuelle ES est un peu ennuyante, là. C'est l'ancienne Camry version luxueuse.
Ouais. Mais la LC est loin d'être ennuyante.
Oui. La LC, ça a l'air d'un prototype sur roue, là.
Ouais.
Moi, honnêtement, là, quand j'ai conduit ce char-là, je l'avais en plus, je l'avais vraiment là, en version silver, là,
mm-hmm.
Et les gens pensaient vraiment que je conduisais un prototype.
Oui, c'est beau comme voiture. Là. Puis c'est à conduire, c'est vraiment intéressant aussi. Là.
Elle est magnifique, effectivement.
Ouais.
Dans la série des nouvelles technologies, Toyota qui dit qu'en 2021, ils vont avoir des voitures qui vont se parler entre elles.
Non, ça va être beau, ça.
Ouais, c'est ça.
On est dans le film Les Bagnoles. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Oh, pas grand-chose.
T'auras compris que c'est pas sur ce genre de discussion-là, bien entendu.
Oui.
Mais c'est davantage sur des discussions entre voitures, savoir où on est, positionnement, s'il y a des problèmes et des trucs comme ça. Ce qui est particulier, c'est qu'on avait, depuis 1999, octroyé une bande de 5,9 GHz pour la communication de véhicules et infrastructure. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle et on dit qu'à partir de 2021 chez Toyota, il y en aura. C'est évidemment c'est jasé à courte distance. Là. C'est-à-dire que c'est pas l'idée, c'est pas que tu vas pouvoir appeler ton ami en Chine
à partir de ta voiture. C'est la voiture en avant de toi qui va dire à la voiture en arrière, ben, regarde, je viens de freiner d'urgence, là, fait que freine donc toi
c'est
aussi.
Ça. Exactement.
Pour pas maganer mon pare-choc. Mais je trouve ça bien intéressant, mais c'est parce que ça va venir plus intéressant quand ça va se parler entre constructeurs. Parce que là, c'est bien beau. Faudrait que tu aies 4 Camry qui suivent de fil pour que ça soit un peu pratique. Tandis que là, ben, c'est une Camry, une fusion, puis tu sais, peuvent se parler.
En autant qu'ils les mettent dans le Corolla, parce que c'est surtout de ça qu'ils vendent.
Bon, c'est ça, peu importe. Là. Mais tu sais, va falloir qu'à un moment donné, ça se parle entre constructeurs aussi, parce que c'est beau que les voitures de la même marque se parlent. Mais tu sais, à un moment donné...
Moi, je pense que ça va arriver là, de toute façon.
Bon, oui, on n'a pas le choix.
Ils n'auront pas le choix. Là. C'est bien... d'après moi, là, c'est pas...
Mais ça prendrait une compagnie externe qui invente un protocole de communication que les constructeurs... adopte par après, tu sais, plutôt que chacun fait sa propre affaire. Là.
C'est déjà là, à peu près. Tu sais que actuellement, Audi a déjà des systèmes qui communiquent entre autres avec les lumières.
Mm-hmm. Ben, Volvo avait pas ça aussi, quelque chose comme ça.
Audi l'a fait à Las Vegas entre autres.
Ok.
C'est vraiment ils sont déjà, là, la Audi A4 et la Audi Q7 sont déjà, si tu veux, équipés de ce type de système-là.
Non, c'est bon. C'est
possible.
C'est bon qu'on travaille chacun de notre côté puis qu'on développe quelque chose, mais il faudrait qu'à un moment donné, les constructeurs s'assoient ensemble et se disent, bon, ben on adopte la technologie de Audi, c'est la meilleure, on adopte ça, puis on s'en va avec ça. Ouais, mais il y a encore quelques années à travailler là-dessus. Les voitures complètement autonomes, c'est pas pour demain matin. On a vu avec ce qui est arrivé avec Uber au Nevada, là. En Arizona, ça sera pas pour demain matin. Mais ça s'en vient quand même assez vite. Dans le monde de l'automobile, c'est demain.
Exactement, exactement.
C'est bon.
Mon cher, une autre petite nouvelle rapide. J'ai un défi à te demander.
OK.
Quelle est la voiture la moins vendue au Canada depuis le début de l'année? Tam,
tam, tam, tam. La voiture la moins vendue au Canada depuis... Je te dirais la Mitsubishi Mirage.
Eh non!
OK.
C'est la Fiat 500L.
OK. Mais tu m'avais demandé... Tu m'avais demandé avant, est-ce que... La Fiat 500L se fait encore. Je n'aurais pas été certain. Mais
ils en ont vendu 5.
Ouais.
Okay, on sent le succès, là.
Mais c'est un bel essai, mais je veux dire, quand ça a sorti, c'était pas ça. Pire, mais avec plusieurs années après, c'est comme il y a d'autres choses sur le marché qui est mieux que ça.
Oui, oui. Mais moi, j'aime bien la 500L. Mais
la visibilité dans ce auto-là est incroyable. Là.
Effectivement, mais c'est pas fiable et ouais. C'est vraiment. Là, on le sait, là. C'est. Et aux catastrophes, tu sais, c'est pas le problème, c'est que c'est pas la seule Fiat qui se vend pas non plus.
Ouais, c'est difficile.
Ben, c'est difficile. C'est un marché qui est tellement
niche.
Ouais, c'est ça. C'est un peu particulier là. C'est vraiment pas une voiture qui est très populaire. Et même la 500X n'a pas exactement le succès escompté. On en a vendu 16 depuis le début de l'année.
Ouais,
disons
ça.
Que Fiat n'est pas au sommet de sa part.
Mais c'est parce que le problème, c'est que Fiat n'a rien de qui sort du lot parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui se fait, genre chez Chrysler ou chez Jeep ou chez Dodge, qui est l'équivalent, tu sais. Parce que tu prends le 500X, mais tu as le Renegade. Tu prends la Fiat 500, OK, c'est un peu tout seul là, dans sa grosseur. Puis si tu vas avoir convertible, c'est quand même bien. Mais pour le reste, la 128, ben c'est une Mazda 5. T'sais. Fait qu'il y a toujours quelque chose de comparable ailleurs. Mais j'avoue, par exemple, la Fiat 128, c'est une bête un peu différente de la version Mazda. Là. Moi, je l'avais bien aimé là, avec la version Abarth. La
124,
là.
Bon,
la 124, pas la 128, la 124. j'avais la 128, je pense que j'avais le Commodore 128 dans la tête. Mais oui, la Fiat 124, c'était le fun à conduire. Là. C'était très bien, là. Mais
ouais.
C'est ça. C'est difficile partir, ramener une marque comme ça qui n'a pas ça a pas une réputation d'être fiable, puis tu ramènes ça, puis au début, c'est pas fiable. Puis il y avait eu tout le battage médiatique de la madame là, qui avait une Fiat qui était tout le temps au garage, là, que ouais, ça n'a peut-être pas aidé. Mais bon. Fait que
anyway.
C'est bon.
Et une dernière petite, je voulais savoir si tu t'étais si tu avais célébré dignement cette semaine. Alors que c'était l'anniversaire de la Mustang?
Pas cette année. J'avoue que j'ai pu célébrer plus dignement le 50e. J'avais même écrit un article dans le temps que j'écrivais pour le 50e. Un article assez complet, là, mais non, depuis ce temps-là, j'ai comme
ouais, ben là, passé à autre chose. On est à combien, là?
C'était pas le 13e?
53
ans, c'est ça. 53 ans, excuse. Non, mais ça...
Je ne fête pas vraiment mes 53 ans, idéalement. En tout cas, j'essaie d'oublier. Fait que c'est sérieusement... je trouve ça très drôle comme événement, mais ils ont fait pour la Ford Mustang, ils ont fait une petite vidéo tout à fait cute que vous pouvez aller voir. Alors
ouais.
Voilà mon cher,
c'est, bon.
C'est ce qui met fin à notre émission cette semaine.
Oui, et si les gens veulent te rejoindre, ils font ça comment?
Ben ils peuvent aller sur mon blog marcbouchard.ca où d'ailleurs ils vont pouvoir voir des photos de la nouvelle Mazda 6.
Oui.
Et ils peuvent aussi venir me voir sur Facebook ou bien entendu par Twitter, c'est Marc_Bouchard. Ou par notre adresse courriel commune qui est à
info@saroulradio.com.
C'est ça. info@saroulradio.com. On a accès tous les deux à ça. Et toi, on te rejoint comment?
Sur Twitter, Scalazormo. Je gère aussi le compte Twitter de Saroule Radio qui est Saroule Radio. Facebook, Saroule Radio. Vous pouvez aussi sur Facebook, moi, c'est Luc Desormeaux. Et puis, c'est pas mal ça. Si vous voulez nous écouter, ben iTunes, Google Play. Radio Média Plus ou sportradio.ca. Hein? Cette semaine, je ne me suis pas trompé. La semaine passée,
bravo.
complètement déconcentré dans la Leaf. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, je veux vous remercier encore une fois d'avoir écouté cette émission. Je parlais à Marc tantôt, on approche de notre 100e. Aujourd'hui, c'est notre 91e émission. Donc, on s'approche bientôt de la 100e. Ça va être intéressant. Et puis, merci de nous suivre. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Soyez prudents.
Bye bye. Bonne semaine. Bye bye.